Bien, le Christ est ressuscité, qu'il vous bénisse tous. Alors, nous allons continuer notre parcours dans l'évangile de Jean. Nous sommes toujours dans les discours d'adieu. Nous avions vu la dernière fois le chapitre 13 et 14 en partie. Et nous allons aujourd'hui voir dans le chapitre 15 la signification de la vigne véritable et l'annonce de la venue du Paraclet qui sera envoyé d'auprès du Père. D'ailleurs, c'est la troisième fois que l'on parle de la venue du Saint-Esprit, à la fois au chapitre 13, au chapitre 14, au chapitre 15. Mais auparavant, je voudrais faire une petite synthèse de ce qui a été dit précédemment, parce que qu'est-ce que l'on voit dans ces chapitres 13, 14, 15 et 16 ? On voit la montée d'une grande intensité dramatique. Le Seigneur est en train de préparer ses disciples à ce qui va se passer ultérieurement, c'est-à-dire la passion. Il leur donne tous les éléments pour comprendre ce qui va se passer. Parce que, quelque part aussi, il connaît leur désarroi, leurs inquiétudes. Alors, on avait vu en 13, 31 jusqu'à 14, 31, qu'il y a trois interventions des disciples, celle de Simon-Pierre, celle de Philippe, celle de Jude, qui pose des questions. Il pose des questions et c'est en réponse à ces questions que le Seigneur va donner véritablement des paroles sublimes. D'abord, la question de Simon-Pierre, « Seigneur, où vas-tu ?» La question de Philippe, « Montre-nous le Père. » Alors la question de Simon-Pierre, c'était en 13, 36, Simon-Pierre lui dit « Où vas-tu ? » Jésus lui répondit « Où je vais ? Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Donc, et on connaît la suite, ça se termine. Donc, au verset 38, le Seigneur dit « Tu donnerais ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Donc, ça, nous l'avions vu, et suite à cette question posée par Simon-Pierre, le Seigneur va dire la chose suivante, « Que votre cœur ne se trouble pas. » C'est le début du chapitre 14, et nous reverrons ce verset sous une forme un petit peu différente, au chapitre 14, donc toujours au chapitre 14, pardon, mais au verset 27, à la fin du verset 27, « Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » Donc, on est dans l'imminence du départ, vers un lieu où personne ne peut suivre le Seigneur, ni les apôtres, ni les juifs, bien sûr, hein, comme c'est dit au verset 33. Et dans ce discours d'adieu, on a vu, qui sera répété d'ailleurs plus tard, « Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça, c'est ce qui précède justement la question de Simon-Pierre. Au premier verset du chapitre 14 maintenant, donc je viens de citer, « Que votre cœur ne se trouble pas », la suite est très importante pour les explications qui vont suivre. « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est-à-dire que par cette parole, le Christ... c'est une parole de révélation, en fait. Parce que vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, ça veut bien dire que le Christ est Dieu et homme, qu'il partage l'intimité avec le Père, et que tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a appris du Père, il le fait connaître à ses disciples. Et cette intimité, donc ce thème de l'intimité entre le Père et le Fils, va revenir tout au long du chapitre 14 et du chapitre 15, surtout à propos de la vigne véritable. On retrouvera aussi ce thème, il est vraiment récurrent entre les chapitres 13 et le chapitre 16, puisqu'on le retrouvera également dans la grande prière sacerdotale dont nous parlerons la prochaine fois. Donc, cette parole de révélation est une invitation à la foi en la personne du Seigneur qui partage, qui est Dieu. Hein. Et bon, c'est pas nouveau dans Saint Jean. Dès le prologue, nous avons la révélation de l'intimité entre le Père et le Fils. D'abord, nous avons la révélation que si Dieu est unique, il n'est pas seul, qu'il y a une vie de personne en lui, hein, les trois personnes divines, puisque, évidemment, dans le prologue, nous n'avons pas le Saint-Esprit, mais plus loin dans l'Évangile, et en particulier dans ces chapitres, la question du Saint-Esprit viendra, et Saint Jean commence son Évangile en nous disant que le Verbe était auprès de Dieu, tourné vers lui, qui indique une notion d'intimité, et qu'il est Dieu, le Verbe est Dieu. Donc, nous retrouvons dans cette parole de révélation au début du chapitre 14, le fait que le Christ est Dieu, qu'il y a une égalité de nature entre Dieu et le Christ, que le Christ est Dieu, le Verbe. Donc, en quoi sommes-nous en présence ? Nous sommes en présence d'une introduction au mystère de Jésus dans sa relation filiale à Dieu, aussi bien que dans son œuvre pour les hommes qui sont amenés par lui parce qu'il les a choisis, nous verrons ça plus tard, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, ces hommes qui sont amenés par lui à partager la vie divine, comme le dit le saint apôtre Pierre, vous êtes rendus participants de la nature divine. Je ne sais plus si c'est dans la première ou la seconde épine de Pierre, peu importe, mais c'est bien ça l'objectif de la vie chrétienne. Donc, il y a à la fois le thème qui revient régulièrement de la relation filiale entre le Père et le Fils, mais aussi de cette relation filiale entre le Père et le Fils, les disciples, les apôtres, mais à travers les apôtres, les disciples de toutes les générations, ceux qui sont choisis par le Christ, seront amenés à ce partage de la vie divine. Dans la question que pose Thomas, donc en 14.5, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Et c'est la réponse du Seigneur est absolument sublime. Voici ce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, vous avez remarqué, vous êtes familiarisé avec ça, que ça commence par « Je suis ». Donc, on est dans un discours de révélation, parce que « je suis », c'est le nom divin, c'est le nom d'Exode 3.14. Hein ? Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est suffisamment connu. C'est le nom que Dieu révèle à Moïse sur la Sainte Montagne. « Je suis ». Donc, le « je suis là » montre bien la nature divine du Christ et nous fait progresser dans la compréhension par la foi. C'est pas une compréhension de type expérimental, c'est une compréhension dans la foi grâce à l'illumination du Saint-Esprit en nous que nous pouvons reconnaître le Christ comme je suis, donc le Christ Dieu. Personne ne peut nommer le Christ comme Seigneur, nous est-il dit dans l'Évangile, s'il ne reçoit pas l'illumination du Saint-Esprit. Donc, il y a identification, révélation de sa nature divine, il y a la réaffirmation de sa relation filiale avec le Père, et en même temps, sa fonction de médiateur. Nul ne va au Père si ce n'est par le Christ. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, c'est la réponse qu'il donne à la question de Thomas, dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que le Christ nous dévoile, nous rend présent le Père. Ineffablement, mais il nous le rend présent. La question de Philippe, c'est la suivante. Donc, en 14:8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et donc le Christ s'étonne, puisqu'il dit « Voici si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. » Et autre affirmation très importante, « Qui m'a vu a vu le Père. » Qui m'a vu a vu le Père. Il demande à Philippe s'il le croit. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc, il y a à travers la réponse à cette question à Philippe, la réaffirmation par Jésus de son identité divine, à travers l'étroite communion qu'il y a entre lui et le Père. Et seul lui, bien sûr, est dans ce type de communion avec le Père. Le Père dans le Fils dans le Père. Donc, autrement dit, il y a ce qu'on appellerait une inhabitation réciproque entre le Père et le Fils et le Père. « Je suis dans le Père », est-il dit au verset 11, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et donc c'est bien de cette inhabitation réciproque dont il est question. Il est question aussi dans ce verset 11, et ça va nous éclairer aussi pour le chapitre 15, il est question aussi, croyez, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause des œuvres même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et un peu plus loin, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, les œuvres, le Seigneur a pris notre humanité, il s'est abaissé jusqu'à nous pour accomplir le dessein de Dieu, pour délivrer l'homme du péché et de la mort, donc, puisque seul Dieu pouvait délivrer l'homme de la mort, en la traversant et en faisant éclater son empire de l'intérieur. Et il accomplit en toute chose le dessein du Père, donc il accomplit des œuvres qui sont en harmonie avec ce dessein du Père, et de même les disciples, nous allons le voir au chapitre 15, les disciples, les apôtres et les disciples de toutes les générations devront justement aussi produire des œuvres qui sont en harmonie avec le dessein du Père. Il est dit plus loin que dans ce cas, le Père est glorifié. le Père se glorifie, le Père est glorifié, parce que son dessein s'accomplit à travers ses fruits qui seront accomplis par les disciples. Donc les disciples, autrement dit, devront poursuivre l'œuvre que le Christ a initiée. Et alors, en 14, à partir des versets 16 et 17, nous avons donc une autre annonce de la venue du Paraclet. Souvenons-nous que tout ce discours, tous ces discours d'adieu sont tenus dans une tension grandissante. Il y a beaucoup d'inquiétude au cœur des disciples et le maître cherche à leur expliquer et à les consoler quelque part. Et l'envoi du Paraclet procède de ça. Il est dit au chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. » Donc cet esprit, cette déclaration du Christ, si on y réfléchit bien, elle est ouvertement trinitaire. Elle n'est pas formulée avec les mêmes mots qui seront employés dans les grandes définitions des conciles œcuméniques de Nicée et de Constantinople. On n'emploie pas le terme de consubstantialité, mais la réalité de la vie trinitaire, là, elle est bien posée. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils qui demande au Père d'envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui qui est le paraclet, celui qui est le consolateur, celui qui est le défenseur, l'avocat, celui qui instruit dans la vérité tout entière. Et les disciples auront besoin de l'Esprit Saint pour accéder à la profondeur des paroles du Seigneur, pour accéder au mystère du Christ, pour accéder de manière plénière au mystère du Christ et pour pouvoir se faire porteur de la bonne nouvelle. Ça, il faudra donc la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte pour cela. Ceux qui étaient frileux, ceux qui ont abandonné le maître à Gethsémani, celui qui l'a renié par trois fois, ceux-là, eh bien, lorsque le Saint-Esprit descendra sur eux, ils seront complètement transformés. Ils iront aux quatre coins du globe, enfin de la terre habitée telle qu'elle est connue à l'époque, et ils annonceront la bonne nouvelle. Et rien ne les arrêtera. Ils subiront le martyre en s'identifiant ainsi au Christ. Et la troisième question, donc, c'est celle de Jude, au verset 22. Judas, ne pas confondre avec Judas Iscariote, celui qui a trahi le Seigneur, pose la question suivante. Seigneur, Judas lui dit, Seigneur, et qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Là, on voit que Judas laisse transparaître une conception messianique qui n'est pas la bonne. Il attendait, il n'était pas le seul d'ailleurs, il attendait le triomphe de Jésus-Christ. Et il va bien y avoir le triomphe de Jésus-Christ, mais pas selon la voie qu'il espérait. Une toute autre manière. Et on retrouve d'ailleurs cette ambiguïté au début de la Grande Semaine, avec le dimanche des Palmes, l'entrée du roi Messie à Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse, donc monture royale. On met les palmes sous les pieds de celui qui rentre triomphalement. On dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». C'est donc une acclamation messianique, telle qu'on peut la trouver dans l'Ancien Testament. Et très vite, quasiment dès le lendemain, l'espérance qu'avait soulevé cette entrée va se retourner. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens qui acclament le Seigneur au dimanche des Palmes, puisque c'était bien un dimanche, cette fois-là, que le Seigneur est rentré dans la ville de Jérusalem, eh bien, avaient une fausse conception de la messianité. Attendaient le triomphe temporel du Messie, la restauration d'Israël, bon, toutes choses qu'ils ne vont pas voir venir, du moins selon la conception qu'ils s'en faisaient. Et peut-être que les mêmes qui ont acclamé le Seigneur au dimanche des Palmes seront les mêmes qui, au grand vendredi, diront « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Hein ? C'est pas du tout exclu. Donc, le Seigneur répond, à Jude, le frère de Jacques, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure en lui. » Encore une insistance sur l'intimité de la relation entre le Père et le Fils, intimité qui demande à se communiquer, parce que l'homme doit devenir la demeure de la Sainte Trinité. Le Père et le Fils, nous ferons en lui, nous demeurerons chez lui. Et à nouveau, donc, deuxième annonce de l'envoi du Paraclet, au verset 26 du chapitre 14, « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc il y a une reprise de cette réponse. La réponse à Jude reprend ce thème de l'amour commun entre le Père et le Fils, et cet amour qui veut se communiquer, puisqu'il veut habiter dans le cœur des hommes qui croient en la parole du Seigneur, qui la garde et qui la met en pratique de façon à ce qu'elle produise de bonnes œuvres. Et évidemment, cette descente du Saint-Esprit est aussi l'annonce d'une paix profonde, malgré les tourments, malgré les persécutions dont on parlera dans la deuxième partie du chapitre 15. Malgré les tribulations, les apôtres resteront dans une paix profonde. Alors le deuxième discours d'adieu, discours testamentaire comme on l'appelle ici ou là, c'est le chapitre 15, les chapitres 15 et 16. Et là, donc, au chapitre 15, nous voyons apparaître l'allégorie de le symbole de la vigne. Dans la première partie, chapitre 15, de 1 à 11, il est évoqué la vigne et les sarments. Alors, la vigne, c'est un thème récurrent qui parcourt toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. La vigne, qu'est-ce que c'est ? C'est dans les psaumes et les prophètes, c'est le, comment dire, la figure du peuple consacré à Dieu, du peuple élu, la figure d'Israël, la figure du peuple de Dieu. Mais ici, tout de suite, on remarque plusieurs choses. Le premier verset du chapitre 15 dit « Je suis la vigne véritable ». Donc, la vigne véritable, c'est encore un discours de révélation. « Je suis ». Et à côté du « Je suis », il y a l'affirmation de la vigne véritable. Cette vigne véritable, contrairement à l'image vétérotestamentaire, la vigne, c'est tout le peuple, c'est le peuple est comparé au vignoble du Seigneur, donc le Père est le vigneron qui prend soin de son vignoble, qui l'entretient, qui veille à ce qu'il porte de bons fruits. Mais là, ce n'est plus du vignoble dont il est question, mais du Seigneur. Donc, la vigne dont on parle ici, ce n'est pas l'ensemble des pieds qui composent une vigne, mais c'est le cep dans sa relation avec les sarments. D'ailleurs, donc, dans le texte grec du Nouveau Testament, on utilise le terme de « ambellon » pour désigner l'ensemble des ceps, des pieds de vigne qui composent un vignoble. Et là, dans le chapitre 15, on est en face du terme « ampelos ». Donc là, c'est le cep porteur de sarment, le cep porteur de sarment, donc le cep dans sa relation intime avec les sarments. Parce que cette image symbolique de la relation entre le cep et les sarments va permettre au Seigneur d'illustrer, de montrer quelle est l'intimité de la relation entre lui, le Seigneur, qui est le cep, et les sarments, qui sont les disciples. Parce que c'est du cep que les sarments tirent leur croissance. Donc on a vu qu'il y avait unité du Père et du Fils, et qu'il y a, avec cette image symbolique de, du cep, de l'ampelos, l'image de la communion des disciples avec l'unique Seigneur. Donc c'est pour ça qu'on va voir à plusieurs reprises répéter le mot « demeurer ». Demeurer, c'est quelque chose de très important dans le chapitre 15. Demeurer dans cette communion, comme les sarments tirent leur sève du cep et peuvent de ce fait donner de bons fruits, mais aussi parce que, on va voir plus tard, ils sont émondés, taillés, donc c'est l'image de la purification. Et c'est en même temps la seule possibilité pour les disciples de porter du fruit. Et ensuite, au cours de ce 15e chapitre, le fait de porter du fruit est lié au fait de demeurer dans l'amour. Demeurer, c'est un mot-clé dans tout ce discours, dans ce deuxième discours d'adieu que fait le Seigneur, dans ce deuxième discours testamentaire que fait le Seigneur. Parce qu'on voit qu'il y a le thème de l'union du Père, du Fils, et donc par-delà avec les disciples. On voit que le Seigneur est la vraie vigne, le cep, celui qui donne l'abondance de la vie. Dans l'évangile de Jean, on trouve aussi d'autres thématique symbolique pour souligner cette abondance de la vie qui est donnée par le Seigneur. Et on voit également que tout cela, c'est dans l'agapé. c'est dans l'amour. Parce que de même qu'il y a une communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'ailleurs le mot agapé est toujours, c'est l'amour divin, c'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Mais cet agapé, il est surabondant, il ne demande qu'à se répandre. C'est une effusion continuelle qui vient du cœur de Dieu et qui va vers les hommes. Donc, les disciples du Seigneur doivent être dans cet amour, le garder en eux, c'est d'ailleurs leur marque distinctive, leur dit le Seigneur, le garder en eux pour pouvoir, en tant que sarment de la vigne qu'est le Seigneur, produire de bons fruits. Et c'est donc dans la dernière partie du chapitre de la première section du chapitre 15, donc les versets 12 à 17, qui se conclut sur le commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est le commandement. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans le chapitre 13. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres. Et là, c'est répété. Et c'est pour ça que ces différents éléments permettent, en quelque sorte, de définir, d'éclairer le statut du disciple du Seigneur, en définitive. Le disciple du Seigneur qui demeure dans la foi, qui garde les paroles du Seigneur, qui accomplit les paroles du Seigneur, autrement dit qui produit des fruits en conformité avec les paroles du Seigneur, qui produit des fruits en conformité avec le dessein de Dieu tel qu'il est révélé par le Christ, eh bien, ce disciple qui est choisi, c'est pas lui qui choisit le maître, c'est le maître qui choisit le disciple, ce disciple qui est choisi, il passe du statut de serviteur ou d'esclave, doulos c'est serviteur, mais dans un sens très fort, dans le sens d'esclave, à celui d'ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Puis ensuite, il y aura donc l'annonce dans la deuxième section, dans la troisième section, pardon, du chapitre 15, donc qui va du verset 18 au verset 27, il y aura l'annonce des persécutions, la haine que le monde voue au maître, et comme le disciple n'est pas plus grand que le maître, eh bien, le maître qui a été l'objet de cette haine, les disciples, eux aussi, partageront la haine du monde parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce que le choix que le Seigneur fait de ses disciples fait que ceux qui sont choisis ne sont plus du monde et le monde ne supporte pas ce qui ne lui appartient pas. Il ne le supporte pas. C'est vrai dans le cadre de l'évangile que nous lisons ce soir, mais c'est vrai dans le temps de toutes les générations chrétiennes. La persécution, la haine du monde, c'est un fait d'actualité à chaque génération. Nous le mesurons jour après jour. Bon nombre de nos frères chrétiens de par le monde savent d'expérience ce que veut dire vivre sous la croix. Et malgré cette haine du monde, malgré ces persécutions, l'envoi du Saint-Esprit, c'est encore une autre fois répété, donc des versets 26 à 27 du chapitre 15. Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. C'est-à-dire que le don du Saint-Esprit permettra aux disciples d'avoir la capacité de rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité, malgré cette haine du monde et malgré les tribulations et les persécutions qu'ils encourront. Alors je voudrais revenir également sur les premiers versets de ce chapitre 15, où il est affirmé que, où Jésus affirme « Je suis la vigne véritable ». Ces versets, chapitre 15, versets 1 à 8, eh bien, ils font suite au discours qui commence après la clôture du dernier repas. En vérité, on ne sait pas très bien d'ailleurs, parce que il est bien dit en 14:31, « Levez-vous, partons d'ici », mais on n'a pas plus d'éléments pour nous dire où vont à ce moment-là le Seigneur avec ses disciples. On entre tout de suite dans le discours du chapitre 15. Ces versets-là, ce chapitre-là, il souligne une chose fondamentale qui est l'importance de relier notre vie à Dieu. C'est une condition sine qua non pour produire du fruit, pour produire quelque chose qui demeure, pour que nous puissions faire la gloire du Père. Rester fermement attaché au Christ, donc, c'est dit tout de suite d'entrée de jeu, le Christ qui est la vigne véritable. Et ampelos et alethine. Donc, il faut demeurer fermement attaché au Christ. Le verbe demeurer, donc, dans les versets 4 à 10, il est répété à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce qu'il exprime l'union, d'abord, on l'a vu précédemment, entre le Père et le Fils, et il exprime là, pour ce qui nous concerne directement, l'union entre le Fils et les disciples appelés à entrer dans l'intimité du Père et du Fils. Donc, le Seigneur est la vraie vigne, le vrai cep, l'unique cep sur lequel sont les sarments qui doivent produire de bons fruits. On a vu, tout à l'heure je l'ai évoqué très brièvement, mais ça vaut la peine d'y revenir quand même un peu, que ce thème de la vigne, il parcourt l'Écriture, les prophètes, on le trouve chez Isaïe, en chapitre 5, versets 1 à 7, 27, 2 à 5, on le trouve chez Jérémie, 2, 21, 12, 10, 11, on le trouve chez Ézéchiel, 15, 1 à 8, 17, 5 à 10, et on le trouve également dans l'évangile de Saint Matthieu, on le trouve dans les psaumes aussi, et dans, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, dans l'évangile de Saint Matthieu, 21, 33, 41, chez Saint Marc, 12, 1, 9, chez Saint Luc, 20, 9, 16. Donc qu'est-ce qui est souligné d'entrée de jeu dans ces versets de la première section du chapitre 15, s'agissant du symbole de la vigne, eh bien, c'est du fait que la sève monte du cep dans les sarments, c'est l'unité entre Jésus qui est le cep et les sarments que sont les disciples, les apôtres et les disciples de tous les temps. Et il nous est dit que pour porter du fruit, le sarment doit être émondé, taillé, purifié. Sinon, il ne peut pas donner du fruit. Et il est émondé, taillé, purifié par la parole, le Christ lui-même, mais aussi la parole qui est l'épée de l'Esprit, car nous sommes émondés et purifiés par la parole. Et tout de suite, on est entraîné vers quelque chose de très important, c'est sur la mission du disciple qui est de donner du fruit. Je reviens sur cette affirmation « je suis » qui introduit toujours un discours de révélation dans l'évangile de Saint Jean. Donc, on l'a vu précédemment dans les chapitres étudiés au long de notre parcours. On l'a vu en 6:35, « je suis le pain de vie », en 8:12, « je suis la lumière du monde ». En 8:58, on l'a vu tout seul, sans qualificatif derrière, « je suis », avant qu'Abraham fût « je suis ». En 10:7-9, « je suis la porte ». En 10:11-14, « je suis le bon berger ». En 11:25, « je suis la résurrection et la vie ». En 14:6, comme j'ai cité tout à l'heure, suite à la question que posait Thomas, donc Thomas qui lui demandait, qui se posait la question de savoir où le Seigneur allait, comment saurions-nous le chemin, puisque nous ne savons pas où tu vas, je suis le chemin et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En 15:6, je suis la vraie vigne. Donc, ça revient dans l'évangile de Jean, ces paroles de révélation, qui sont le plus souvent, sauf en 8:58, associées à un signe qui résume, en quelque sorte, l'enseignement du Seigneur. Et ces signes, d'ailleurs, ont pour objet de révéler l'identité et la mission du Seigneur. Alors, on va lire ces versets, c'est très important. Donc, je suis la vigne, je lis dans la Bible de Jérusalem, hein, c'est pas forcément la meilleure édition. En langue française, on a beaucoup de problèmes avec les traductions de l'Évangile. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Évidemment, le sarment qui ne porte pas de fruit, il est bon, il est coupé, il est desséché, on le coupe et on va le jeter au feu parce que il n'a pas de valeur en lui-même. Tout sarment, par contre, qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire que le sarment, hein, le vigneron, qui prend soin de sa vigne, à un certain moment donné de l'année, il va tailler les sarments, il va les émonder. Ici, c'est transposé sur la leçon spirituelle que le Seigneur donne, c'est-à-dire purifier les disciples qui sont les sarments, souchés sur le cep. Il les monte pour qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, l'objectif du Seigneur par rapport à ses disciples, c'est qu'il porte du fruit. Et le Christ, qui est parole de Dieu, eh bien, produit la purification nécessaire en vue du fait que les disciples portent du fruit. Demeurez en moi comme moi en vous. Donc, ça c'est assez facile à comprendre, parce que de même que le sarment ne peut en lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur le cep, eh bien, le Seigneur dit, de même, vous les disciples, vous ne pouvez pas porter du fruit, c'est-à-dire œuvrer à l'accomplissement du dessein de Dieu, vous ne pouvez pas porter ce fruit si vous ne demeurez pas en moi. Et là, il y a l'importance du verbe demeurer. Il est, si vous y êtes attentif, employé 10 fois entre le verset 4 et le verset 11. On le retrouve également employé dans la première épître de l'apôtre Jean. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la relation du disciple avec le maître, c'est une relation dans laquelle le disciple doit demeurer, faute de quoi la relation serait rompue, et c'est une relation de sujet à sujet. Et à ce propos-là, d'ailleurs, donc c'est une relation qui va avoir des caractéristiques, une caractéristique d'intimité. Et si on peut rapprocher ça avec ce qu'on a vu dans le chapitre 6, dans le discours de pain de vie, au chapitre 6, le verset 56, « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Et c'est par cet acte de menducation, « Qui mange ma chair et boit mon sang », que, en quelque sorte, les mots peuvent être difficiles à trouver là pour exprimer ça, dans cette menducation de la chair et du sang du Christ, nous devenons un avec lui, mais toutefois sans jamais cesser d'être Dieu, parce que le Christ est le Christ, Dieu homme, et l'homme est l'homme. Il y a le Dieu incréé et il y a l'homme créé. Mais tout de même, il y a une relation d'intimité dans cet acte de menducation tel que nous le trouvons dans le discours du pain de vie, dans le verset 56 du chapitre 6, une relation d'intimité. Là aussi, une forme d'inhabitation dans laquelle les deux deviennent un sans jamais cesser d'être deux. Hein, en fait, on n'est pas là dans un acte de fusion du créé et de l'incréé. Alors, que signifie d'abord ce verbe « demeurer » pour les disciples? Parce que c'est dans cette symbolique du cep et des sarments, c'est la relation entre le maître et les disciples, qui est au cœur de cette symbolique. Demeurer pour le disciple, ben ça signifie qu'il doit être fidèle à l'enseignement du maître, qu'il doit être fidèle au commandement du Christ, et qu'il doit les accomplir. Hein, très important hein, de garder ça en perspective. Parce que s'il ne les fait pas dans sa vie, eh bien, il ne produit pas de fruits. Cette fidélité, eh bien, elle a pour but, justement, de produire de bons fruits. Et l'union avec le Fils, c'est la condition même pour que le disciple puisse produire de bons fruits. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. C'est absolument limpide. Et le disciple également ne peut exister qu'en Jésus, de la même manière que le sarment n'existe que avec le cep. La sève monte du cep et va dans le sarment, lui permet de produire de belles grappes en son temps, et le disciple doit avoir cette relation avec Jésus, ce lien avec le Christ, pour exister en tant que disciple. Sinon, il n'y a rien. Il y a là, donc, de manière très prégnante, souligner cette relation d'intimité. Il y a toujours ce balancement entre l'intimité que partagent le Père et le Fils et l'intimité qui doit unir le Fils avec les disciples. Le disciple est dépendant du Christ et donc sa fidélité, quelque part, doit résumer toute sa vie de disciple, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas acquis une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qui doit, dans la foi, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec cette synergie entre la volonté divine qui agit en lui et sa volonté qu'il met dans les pas de la volonté divine, eh bien, c'est une fidélité qui doit être toujours renouvelée, recommencée, jour après jour, en définitive. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Cette fidélité, elle peut se perdre pour peu qu'elle ne soit pas constamment vivifiée. Monseigneur Silouane nous a enseigné, quand il était au monastère de la Malviale, il insistait beaucoup sur le fait qu'on peut très facilement perdre la grâce. C'est un bien très précieux qui nous est donné et on peut le perdre très facilement. Alors, là aussi, il y a ce balancement entre le Fils et les disciples. C'est-à-dire qu'il y a une recherche d'unité entre les deux, mais il y a les deux également. Il n'y a pas de confusion entre les partenaires. Le Christ et le Christ, le disciple et le disciple. Mais en même temps, le Seigneur nous appelle à demeurer en lui, et si nous demeurons en lui, nous grandissons dans cette intimité avec lui. Donc, l'objectif, c'est de parvenir à faire un avec lui, sans, comme je me répète, sans jamais cesser pour autant d'être deux. Donc, le but qui est visé au début du chapitre 15 par l'émondage des sarments, c'est bien, comme le dit le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, car hors de moi, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc le but de l'émondage des sarments, c'est justement la synergie entre le Fils et les disciples. La synergie entre le Fils et les disciples. Il s'agit donc pour le disciple d'entrer dans cette synergie en accueillant par la grâce de l'Esprit-Saint l'action du Christ en lui. Et l'action du Christ en lui, ça veut dire, entre autres choses, permettre à l'amour, puisque le commandement nouveau que le Christ donne à ses disciples s'enracine dans l'agapé divine, permettre à l'amour de susciter la vie en lui et de répandre cette vie autour de lui. Autrement dit, résumons-nous partiellement. Il faut, nous dit le Seigneur dans ces premiers versets du chapitre 15, nous garder de l'infidélité, faute de quoi, si nous tombons dans l'infidélité, nous ne pouvons pas produire les fruits, et à ce moment-là, nous nous desséchons et le maître de la vigne va couper le sarment et le jeter au feu, comme il est dit, reprenant d'ailleurs des images que l'on trouve également chez les grands prophètes d'Israël, en particulier chez Isaïe et Ézéchiel, parce que le sarment ne sert plus à rien. Et à ce moment-là, on est jeté dehors comme Satan sera jeté dehors. Nous avons vu déjà. Au contraire, donc si nous sommes dans cette fidélité, eh bien, le Seigneur nous fera la grâce de produire des fruits qui attireront vers le Christ, attireront d'autres vers le Christ. Parce qu'il y a la mission des disciples. Et là, ça me rappelle un enseignement que donnait Saint Jean Cassien dans ses conférences, quand il parle des trois vocations de l'homme. Donc, la deuxième vocation qu'il évoque, c'est le fait d'être attiré vers le Christ par la médiation d'un saint. Bon, vous savez, nous sommes amenés dans notre vie chrétienne à rencontrer des théophores, du moins c'est ce que nous souhaitons tous les uns les autres, des théophores, des porteurs de Dieu. Et quand nous sommes mis en contact avec ces porteurs de Dieu, ça éveille en nous le désir de les suivre. Et ils sont porteurs de Dieu, porteurs du Christ, donc ça nous entraîne vers le Christ. Eh bien, cette fidélité, le fait de demeurer dans la garde des commandements du Seigneur, le fait d'accomplir les commandements du Christ, eh bien, cette fidélité, elle est susceptible de produire de bons fruits, autrement dit, des témoignages, et d'attirer des hommes au Christ. Le verset 6 maintenant nous dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi », alors on a vu que le verbe « demeurer » était tantôt un impératif pour les disciples, « demeurer », tantôt conditionnel. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si au contraire, au verset 7, c'est l'antithèse, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Je ne pense pas que la traduction vous l'aurez soit très très bonne là, dans la circonstance. J'ai noté quelque part, je puis m'excuser, mais j'ai noté quelque part quelque chose qui est plus proche. Oui, cela arrivera pour vous. Cela arrivera pour vous. Dans le texte grec, il n'y a pas rendre intelligible en français, il faut le rajouter. Donc cela arrivera pour vous. Demandez ce que vous voudrez et cela arrivera pour vous. C'est une manière de souligner l'action de Dieu en notre faveur. Alors, évidemment, ce qu'il s'agit de demander là, c'est pas n'importe quoi. C'est bien sûr, il est dit demandez ce que vous voudrez, mais la demande doit être conforme aux bons fruits que le sarment doit porter, le sarment qui est souché sur le cep. Donc cette demande, elle doit être en conformité avec cette notion de bons fruits qu'il doit porter. Donc elle doit être conforme au dessein que le Christ est venu accomplir, le dessein de Dieu, le projet même le dessein de Dieu que le Christ est venu accomplir parmi nous. Et c'est à cette condition que, nous dit le Seigneur, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Donc, le Père se glorifie, se réjouit si le disciple porte de bons fruits, si il accomplit le dessein. Parce que le Seigneur a accompli le dessein de Dieu, mais les disciples aussi doivent s'inscrire dans cet accomplissement qui est aussi un engendrement quelque part. On avait retrouvé d'ailleurs en 14-13 déjà ce thème de la glorification. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc c'est une promesse que le Seigneur fait à ses disciples. Disciples qui sont inquiets, qui ne savent pas où ça va, qui ne comprennent pas très bien où le Seigneur va les emmener et ce qui va se passer. Là, il y a une promesse vraiment consolatrice, qui est une promesse qui est liée à la fidélité des disciples pour leur maître. S'ils demeurent dans cette fidélité, s'ils sont obéissants à la parole du Christ, s'ils ont le désir de porter de bons fruits et qu'ils accomplissent les œuvres qui traduisent en actes ce désir, eh bien, il glorifie le Père. Il est dit au verset 8, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. » Alors, à propos de ce verset d'ailleurs, certaines traductions disent « Le Père se glorifie ». C'est une action par laquelle le Père se glorifie. Alors, en quoi, si on est dans une lecture attentive de ces versets du chapitre 15, en quoi consiste la glorification du Père ? La question mérite d'être posée. Eh bien, elle consiste dans l'aboutissement de son dessein d'amour pour le monde. Parce que le Père a un dessein d'amour pour le monde. Malgré le péché de l'homme, l'homme n'est pas abandonné à son triste sort, et le Christ vient accomplir ce dessein d'amour du Père pour le monde. L'homme n'est pas laissé enfermé dans une situation carcérale, en quelque sorte. C'est-à-dire que, à cause du péché, il est comme dans une prison. La route des cieux lui est fermée. Son seul horizon humain est la mort. Et parce que tout ce qu'a entrepris le Père pour les hommes est marqué du sceau de l'amour, eh bien, la glorification du Père, c'est l'aboutissement de son dessein, c'est la manifestation plénière de son amour pour le monde, et ça coïncide d'ailleurs avec ce que le Christ est venu faire, et on le verra dans la grande prière sacerdotale au chapitre 17, le Christ est aussi venu pour rassembler dans l'unité tous ceux que le Père lui a donnés. Rassemblement des croyants dans l'unité divine. Donc le Père est glorifié par le fruit porté par les sarments qui appartiennent à la vigne qu'est le Christ. La deuxième section. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans cette première partie du chapitre 15, versets 1 à 17, il y a une autre section, donc 9 à 17, la première 1 à 8, la deuxième 9 à 17. Et là, au centre de cette section, il y a le commandement nouveau que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a, le Seigneur établit un nouveau type de relation entre les hommes et entre les disciples. Et la marque du disciple du Christ, des disciples du Christ, c'est qu'ils s'aiment les uns les autres à l'image, selon l'amour même du Christ, selon l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'amour ineffable, l'agapé divine, eh bien, la marque des disciples, c'est à cela qu'on reconnaît les disciples, qu'ils s'aiment les uns les autres. C'est donc le commandement nouveau. C'est pas une imitation, je l'avais dit la dernière fois à propos de la scène du lavement des pieds. Saint Théophane le Reclus, dans ses commentaires évangéliques, parle non pas d'imitation, parce que de toute façon, le Seigneur est inimitable. C'est pas une catégorie morale d'imitation, mais c'est véritablement un engendrement spirituel dont il est question là. Et le Seigneur instaure un nouveau type de relation qui est fondé sur le commandement d'amour. L'amour entre les disciples qui devient en quelque sorte iconique, qui devient une icône de l'amour ineffable qui unit le Fils au Père et le Père au Fils. Comme le Père aime le Fils, comme le Fils aime le Père, le Fils nous engendre à un nouveau type de relation fondée sur l'amour les uns pour les autres. Comme le Seigneur nous aime. Je l'ai déjà dit. Donc c'est un amour oblatif, on l'a vu précédemment également avec la scène du lavement des pieds. Le Seigneur se fait serviteur, son abaissement relève d'un amour oblatif. Hein. Il se fait le plus humble, lui qui est Dieu et homme, il se fait l'humble serviteur. Et là, également, dans cette révélation du commandement nouveau, dans ce que commande le Seigneur à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, eh bien, il y a une notion d'amour oblatif, c'est-à-dire que c'est possible, il est possible pour les disciples de s'aimer les uns les autres comme le Seigneur les a aimés, comme le Seigneur nous aime, parce que là, il s'agit des apôtres, mais c'est les disciples de toutes les générations qui sont concernés par ce commandement. Si nous renonçons à tout ce qui en nous fait obstacle au Christ, donc si nous sommes avec l'aide de l'Esprit Saint en capacité d'entrer dans ce nouveau type de relation qui suppose que nous défaisions intérieurement, là c'est un chemin d'ascèse que l'on fait avec le Christ, parce que sans lui on ne peut rien faire, c'est un chemin d'ascèse qui doit nous conduire à une transformation intérieure. On ne peut vivre cet amour les uns pour les autres sans cette transformation intérieure, sans cette purification, sans cet émondage du sarment dont il est parlé au début du chapitre 15. Et saint Théophane le Reclus reprend cette image d'engendrement en parlant justement de l'amour qui se communique du Fils aux disciples et des disciples les uns pour les autres, puisque cet engendrement a pour origine l'agapé divine. Si les disciples demeurent, encore une fois le verbe demeurer, dans l'amour du Christ, ils ne sont plus doulous, esclaves au pluriel, doulos, esclaves, serviteur. On traduit souvent par serviteur, mais comme je l'ai dit en commençant, c'est véritablement plus l'esclave, parce que le serviteur dans l'Antiquité, c'est l'esclave. Donc il est entièrement soumis à son maître, et il ne sait pas ce que fait le maître là où le maître veut l'emmener. Mais si on s'inscrit, nous dit le Seigneur, dans ce commandement d'amour, eh bien, à ce moment-là, on change de statut, parce que pour s'inscrire dans ce commandement d'amour, pour vivre dans ce commandement d'amour, il faut passer par la purification intérieure, il faut renoncer au type de relation entre les hommes tel que le monde l'enseigne, et entrer dans ce nouveau type de relation instauré par le Seigneur Jésus-Christ, et donc on change en quelque sorte de statut. Je ne vous appelle plus serviteur, esclave, mais ami. Et il est dit donc au verset, à partir du verset 12, « Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Donc l'amour, il est bien là, oblatif. C'est pas un vague sentiment, c'est un amour sacrificiel. Le Christ, le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice d'amour parfait. Lui qui est Dieu s'est fait homme, s'est abaissé jusqu'à nous et est allé jusqu'au plus profond de notre déchéance, c'est-à-dire dans la mort, par amour. Par amour. C'est la manifestation éclatante de l'amour divin, c'est la manifestation éclatante que malgré son péché, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu, mais que Dieu a déployé une pédagogie divine. Nous le voyons très bien, par exemple, dans le canon eucharistique de la liturgie de Saint-Basile que nous avons utilisé pendant les dimanches du Grand Carême, le déploiement absolument magnifique de cette pédagogie divine qui part de la déchéance de l'homme et qui montre toutes les merveilles que Dieu accomplit en faveur de l'homme, tous les dons inestimables qu'il donne à l'homme, et le don le plus inestimable qui soit, c'est le Fils qui, par amour, est descendu dans la mort pour la vaincre de l'intérieur. Donc c'est un sacrifice d'amour, et au cœur de cet amour, il y a la notion d'oblation. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu ou appris, il y avait les deux traductions possibles, de mon père, je vous l'ai fait connaître. Donc, cet amour, il est tout à la fois garde des commandements du Seigneur, obéissance à ses commandements, il est accueil, parce que cet amour, c'est un don que Dieu nous fait, et pour que le don ne se perde pas, il faut l'accueillir. Tout don qui n'est pas reçu, Et donc, nous devons l'accueillir, si nous sommes des disciples du Seigneur, ce don d'amour, ce don vivifiant d'amour, ce don dont nous devons vivre complètement, parce qu'il est au cœur de notre vie chrétienne, nous devons l'accueillir, nous devons demeurer dans cet amour. Demeurer, c'est dit tel quel au verset 9, la deuxième partie du verset 9, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans l'amour, le mien, dans le texte grec, littéralement. Donc voilà, cet amour, il est une communion. Il est garde des commandements, il est obéissance, il est accueil et il est communion. Alors à propos de l'ami, justement, cette expression n'est pas usuelle dans l'Écriture. On la trouve toutefois appliquée, donnée à Abraham et à Moïse. Abraham et Moïse, auxquels le Seigneur a confié son dessein. Mais plus loin, ultérieurement, dans le livre de la Sagesse, on voit que sont qualifiés d'amis de Dieu ceux qui habitent dans la sagesse, ceux qui habitent dans la sagesse et ceux que la sagesse habite. Là aussi, il y a une inhabitation réciproque. On trouve ça dans Sagesse 7, verset 27. Et cet amour, il a aussi une autre caractéristique. Il n'est pas seulement l'expression du don de la vie. Il est aussi cet amour, comment dire, c'est en référence au verset « Tout ce que j'ai entendu ou appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Cet amour, il est quelque part dévoilement, voilà le mot que je cherchais, du secret de l'intimité avec le Père qui est propre au Fils. Tout ce que j'ai appris ou entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors voilà, toutes ces paroles, eh bien, sont vraiment des paroles de consolation pour les disciples. À la suite de ça, à la suite de cette deuxième sous-section de la première partie du chapitre 15, c'est la haine du monde qui va apparaître. Donc, verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et le Seigneur va expliquer la signification de la haine du monde. Parce que, de la même manière que lui est haï par le monde parce qu'il n'est pas du monde, de la même manière, comme les disciples, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais comme les disciples sont choisis, souvenez-vous de cette notion très importante, les disciples, non seulement les apôtres, mais tous ceux qui dans toutes les générations humaines sont disciples du Seigneur, ils sont choisis. Ce n'est pas eux qui ont choisi le maître, c'est le maître qui les choisit. Il est choisi de mille et une manières, parce que chaque personne est unique devant Dieu. Donc, nous sommes choisis de manière différente les uns des autres. Mais c'est toujours lui qui nous choisit. C'est toujours lui qui nous appelle. Et, pour reprendre l'enseignement de Jean Cassien de tout à l'heure, Jean Cassien, donc, évoquait les trois vocations de l'homme dans une des conférences où il rapporte les propos des pères du désert, il dit, il y a trois vocations, il y a la vocation directe, Dieu appelle directement, Dieu appelle par la médiation d'un théophore, d'un porteur de Dieu, qui attire, parce qu'au fond, du cœur de l'homme, il y a ce désir, même si le désir est enfoui, le fait d'être en contact avec un homme ou une femme qui est véritablement porteur de Dieu, éveille ce désir d'aller vers le Seigneur. Et c'est un moyen aussi par lequel le Christ choisit des disciples. Et puis, il y a une troisième vocation, c'est que Cassien nous dit, la grâce ne nous abandonne pas même au sein de notre misère, Dieu est là avec nous. Donc, il peut aussi se présenter à nous à l'occasion de... alors que nous étions complètement en dehors de lui dans nos vies, eh bien, à l'occasion d'événements dramatiques, la perte d'un être cher, une maladie grave, des événements douloureux de toutes sortes. Et là, le désir qui est au fin fond du cœur de l'homme, il peut l'éveiller par ce biais-là. Vous voyez ? Donc même au plus profond de la misère humaine, le Christ va toujours, par amour, essayer de chercher la brebis qui est perdue, hein, il y a toute la thématique au chapitre 10 que nous avons vu, du bon pasteur, du bon berger qui va chercher ses brebis et qui veut en perdre aucune. Et d'ailleurs, dans la grande prière sacerdotale au chapitre 17, il dira au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Et donc le disciple n'étant pas plus grand que le maître, eh bien, le disciple sera haï comme le maître a été haï. Il sera persécuté comme le maître a été persécuté. À cause du nom béni du Christ, les disciples seront haïs du monde et seront persécutés. C'est des situations, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, des situations toujours actuelles. Et le Christ ajoute au verset 23 du chapitre 15, « Qui me hait, hait aussi le Père. » Hein, en vertu de l'unité, de l'intimité dont il fait part dans ses discours d'adieu entre lui et le Père, « Le Père est en moi et je suis dans le Père, » dit-il, « Eh bien, celui qui est le Fils est le Père. » Il n'y a pas de possibilité de haïr, possibilité entre guillemets, si j'ose m'exprimer ainsi, de haïr le Fils sans haïr le Père. Les deux mouvements sont absolument indissolubles. Et au milieu de ces tribulations, eh bien, le paraclet, le consolateur, instruira les disciples, le consolateur que le Christ prie le Père d'envoyer, puisque le paraclet procède du Père et est envoyé par le Père à la demande du Christ, eh bien, cet esprit de vérité qui vient du Père, il rend témoignage au Christ, mais en plénitude. Et c'est ce qui se passera à la Pentecôte. Les disciples acquerront l'intelligence plénière de tout ce que le Seigneur a fait et enseigné, alors que précédemment, eh bien, c'était pas le cas. Et là, ils l'acquerront. Et cet esprit de vérité qui vient du Père, qui rend témoignage, il est envoyé à tous les disciples de toutes les générations. Et c'est parce que l'esprit est envoyé aux disciples que nous pouvons espérer parvenir à la plénitude de la foi et que nous pouvons tenir ferme au sein des tribulations de ce monde, tenir ferme dans la fidélité au Christ, dans la garde de ses commandements et que nous pouvons nous aussi vivre selon ce commandement d'amour, du moins essayez de vivre selon ce commandement d'amour, parce que il y a toujours cette lutte en nous entre celui qui appartient au Christ et le vieil Adam qui doit céder la place au Christ. Cette lutte, cette ascèse fait que nous sommes capables d'avancer mais aussi de beaucoup de recul, et nous avons besoin de toute l'aide du Saint-Esprit qui procède du Père et qui rend témoignage auprès de nous du Christ, comme jadis il rendit témoignage aux apôtres lors de sa descente à la Pentecôte, et qui opéra une véritable transformation intérieure des apôtres qui portèrent la bonne nouvelle aux extrémités du monde. Alors voilà, donc j'en ai terminé. On a vu donc dans ces discours d'adieu, la deuxième partie du chapitre 13, la dernière fois, enfin tout le chapitre 13 et avec sa deuxième partie, allant jusqu'à la trahison de Judas, le chapitre 14, qui se veut consolant, que votre cœur ne se trouble pas, mais pas une consolation psychologique, une consolation spirituelle, et où le Seigneur donne des instructions, des recommandations, dans le but de fortifier la foi des disciples. Le chapitre 15, avec sa symbolique de la vigne et cette nécessaire intimité entre le Christ cèpe et les disciples sarment, la fermeté dans les tribulations et les persécutions de ce monde et l'envoi du Paraclet qui rend témoignage au Christ et qui nous introduit dans la vérité tout entière. Et la prochaine fois, nous rebondirons encore sur ces choses-là, puisque au chapitre 16, on reparle de la venue du Paraclet, et encore ce mouvement de venue du Paraclet, le Seigneur s'exprime à nouveau, montre que cette venue, est liée avec le fait qu'il va partir vers le Père, que le monde est déjà jugé, que le prince de ce monde est déjà jugé, et on ira vers ce texte qui est le point d'aboutissement avant les récits de la Passion dans l'Évangile de Jean, qui est la grande prière du Christ, qu'on appelle communément la grande prière sacerdotale, qui est vraiment un texte plein de paroles sublimes et admirables. Voilà, je vous remercie de votre attention.